Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
État de siège et l'observance des droits et libertés fondamentaux. Droit et citoyenneté, l'émission qui fait la promotion de vos droits et devoirs, se penche aujourd'hui sur la situation des droits de l'homme, la situation des libertés fondamentales de la justice dans le Nord Kivu et en Ituri. Sous l'état de siège, pour en parler, nous recevons Amnesty International avec Jean Maubert, chercheur à Amnesty International, et Christian Roumou, chargé de campagne. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous. Jean-Maubert Senga, chercheur Amnesty International. Vous venez de publier un rapport qui porte sur l'état de siège et la justice en Ituri et dans le Nord Kivu. Qu'est-ce qui vous a motivé à publier ce rapport?
Merci beaucoup Jeff Ngoy pour l'invitation et merci, salutations à vos auditeurs. Nous publions ce rapport après une année de l'état de siège parce que il y a eu pas mal de suppositions ou d'espérances lorsque cet état de siège a été proclamé de la part de la population des deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri en particulier, mais aussi de la population congolaise en général, pensant que ou espérant que l'état de siège allait être la solution pour mettre fin au massacre des civils et pour améliorer la situation des droits humains dans cette partie du Congo qui a connu plus de 25 ans de conflits armés. Malheureusement, en observant, en faisant nos enquêtes sur le terrain, enfin, en tout cas dans les deux provinces, nous nous sommes rendus compte qu'au lieu de permettre d'améliorer la situation des droits humains, l'état des sièges a plutôt empiré la situation. C'est-à-dire que d'une part, il n'a pas permis d'améliorer la protection des civils, d'arrêter les massacres, mais d'autre part, surtout, il a complètement désorganisé la justice pénale et il a également été utilisé comme un outil pour réprimer quiconque critique les autorités militaires ou les autorités tout court.
Avez-vous quelques cas que vous avez pu recenser qui constituent les violations graves des droits de l'homme?
Oui, alors nous avons documenté des dizaines de cas, par exemple d'arrestations et de détentions arbitraires de personnes, des détentions, par exemple provisoires prolongées par les militaires, soit par pour les punir en tant que tels, soit parce que les juridictions militaires n'ont tout simplement pas la capacité de traiter toutes les affaires qui ont été mises devant elles. Nous avons également documenté les cas d'homicides d'activistes, par exemple, un militant de Lucha qui s'appelle du mouvement citoyen Lucha, qui a été tué le 11 janvier à Beni dans une manifestation qui dénonçait justement la poursuite des massacres malgré l'état de siège. Il a été tué par balle par des policiers, d'après les témoins, et jusqu'à ce jour, aucune enquête n'a été menée là-dessus. Alors que des auteurs, enfin il y a des soupçons, notamment envers le maire de Beni et le commandant de la police de Beni, qui avait déclaré la veille que quiconque allait manifester dans la rue allait être écrasé. Effectivement, ils l'ont écrasé et ils n'ont rien, il n'y a pas eu de conséquences pour eux. Il y a également le militant de droits de l'homme Cabral Yombo qui était tombé lors d'une altercation avec des militaires parce qu'il dénonçait des taxations illégales dans ce territoire. Et qui est mort deux jours plus tard de ses blessures dans un hôpital. Là encore, il y a une enquête qui est en cours, mais qui a tendance à se tirer en longueur. Et on sait qu'une justice qui prend trop de temps, c'est une justice qui est niée. Nous avons aussi documenté, par exemple, le taux de surpeuplement des prisons dans les deux provinces, qui était déjà surpeuplé. Mais les nombres ont atteint des proportions juste inimaginables. Pour vous donner un exemple concret, la prison de Goma, qui est connue localement comme prison Munzenze, communément, elle a une capacité de 300 personnes. Aujourd'hui, cette prison compte plus de 3200 détenus. C'est-à-dire que c'est plus de 1000% de sa capacité. C'est vrai que même avant l'état de siège, la prison de Goma était surpeuplée, mais pas à ce niveau-là. Il y avait autour de 1500 détenus, c'est-à-dire que le nombre a doublé en une année. Et le plus choquant encore, c'est que les prisons n'ont pas reçu plus de moyens, par exemple pour donner la nourriture ou les médicaments aux détenus, mais aussi un tiers parmi eux sont des détenus provisoires. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore été condamnés par la justice et des gens même parfois qui sont poursuivis pour des infractions bénignes ou alors pour des choses qui ne constituent même pas des infractions.
Et c'est la même situation dans toutes les prisons du pays.
Oui, effectivement.
Encore là, c'est pire d'ailleurs.
Oui, mais la situation, en tout cas, nous, pour ce qui nous intéresse, nous montrons que l'état de siège qui était censé améliorer la situation n'a fait que l'empirer.
Vous ne trouvez pas que cela soit normal, puisque la mesure même de l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle, au cours de laquelle les libertés fondamentales sont restreintes, avec une mesure exceptionnelle comme celle-là. Vous ne pensez pas que cela soit normal?
Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que ce n'est pas justifié, parce que ce n'était pas nécessaire, parce que c'est disproportionné. Alors, ce n'est pas légal aussi. Parce que la RDC a signé des traités internationaux. Parmi ces traités internationaux, il y a, on peut citer deux, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Pacte international pour les droits civils et politiques. Ces deux traités ne permettent pas à la RDC de restreindre les droits des gens. Juste comme ça, on se réveille, on dit on va restreindre les droits. Il y a des conditions pour restreindre les droits. Les droits, par exemple, à la liberté de manifester ou les droits d'aller et venir à sa guise ou le droit d'opinion, etc. C'est que ces restrictions doivent être nécessaires, rendues nécessaires par la situation. En l'occurrence, interdire aux gens de se plaindre qu'ils sont tués sans que l'armée ne leur vienne en assistance, ça résout quoi comme problème? Est-ce que ça les empêche d'être tués par les groupes armés? Est-ce que ça permet à l'armée de faire son travail puisque les gens parce que les gens sont obligés de se taire? Non. L'armée peut bien faire son travail de protection des civils et les civils peuvent bien continuer à parler, à critiquer, à peut-être même parfois à soutenir sans que cela ne puisse avoir d'effet sur les opérations militaires. En 2013, lorsque les FARDC ont combattu les M23, il n'y avait pas d'état de siège. Pourtant, les FARDC ont mené une offensive qui a réussi contre le M23. Et les gens qui pouvaient, ceux qui voulaient, ils critiquaient, ceux qui voulaient, ils soutenaient. Et ça n'a pas empêché les FARDC de faire leur travail. Donc, le problème ici, ce n'est pas que c'est normal puisque c'est exceptionnel, parce que ce n'est pas une explication, ce n'est pas une raison. C'est que c'est tout simplement inutile. Ce sont des restrictions qui sont inutiles, qui sont abusives, qui sont excessives par rapport à l'objectif recherché qui est d'assurer la protection des civils et de neutraliser entre guillemets les groupes armés.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h.
Jean-Maubert Senga, chercheur à Amnesty International. L'état de siège viole les normes internationales. Quelles sont ces normes concrètement?
Alors, je venais de mentionner
les traités internationaux que
oui.
Vous venez de
mentionner. Donc, l'état de siège a été proclamé en violation du pacte international sur les droits civils et politiques. Ce pacte, pour ceux qui ne le connaissent pas, définit les droits qui sont reconnus aux citoyens, les droits civils et politiques, donc par exemple le droit à la liberté d'opinion, d'émettre ses opinions, de s'exprimer, de participer à une manifestation pacifique, d'aller là où on veut, d'être jugé rapidement s'il y a une infraction qui est portée contre vous, d'avoir le droit à la défense, de ne pas être torturé, de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Enfin, il y a tout un tas de droits qui sont énumérés dans ce pacte-là. Le pacte prévoit aussi justement que les gouvernements, les États parties, dont la RDC, peuvent restreindre certaines libertés dans certaines situations. Mais ce pacte pose des conditions. Et c'est ces conditions-là que la RDC n'a pas respectées. L'une des conditions, c'est par exemple que la RDC aurait dû notifier les autres États parties à ces pactes en leur disant, écoutez, à cause de la situation qui prévaut dans l'est du Congo, nous pensons qu'il est nécessaire de restreindre telle liberté pendant autant de temps pour nous permettre de
le faire. Devait notifier
la RDC devait écrire
avant de
au secrétaire général de l'ONU, avant ou en tout cas immédiatement après.
Ça ne violerait pas la souveraineté même du pays.
Non, parce que c'est ça le droit international. Quand on y adhère, la RDC y a adhéré, donc c'est un droit qui s'impose à lui. À elle, pardon. Donc ce n'est pas, on peut le faire ou ne pas le faire. Non, ce n'est pas une faculté de faire. C'est une obligation. Et la RDC y a adhéré justement en toute souveraineté. Donc c'est la RDC qui a décidé en toute souveraineté qu'elle allait se soumettre aux exigences de ce pacte international. Et donc elle est obligée de s'y soumettre. Mais en l'occurrence, et n'a pas notifié les autres États à travers le secrétaire général de l'ONU de cet état de siège. Qu'est-ce qui les justifiait? Pourquoi est-ce qu'on les déclarait? En quoi est-ce que les restrictions qui ont été imposées sont nécessaires? Combien de temps elles vont durer? Etc. Cette notification n'est pas juste une formalité, parce qu'elle permet ensuite au mécanisme de l'ONU d'assurer la surveillance justement de ce mécanisme, de venir et de veiller à ce que ce que vous avez dit que vous ferez, c'est effectivement ce que vous faites et que ça ne va pas au-delà de ce que vous pouvez faire en droit international.
Et c'est ce que nous sommes en train d'évoquer, l'observance des droits et libertés fondamentaux sous état de siège. Et c'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux, ce que vous évoquez là. Dans d'autres pays, lorsqu'on adopte une telle mesure exceptionnelle comme celle-là, elle est exceptionnelle, il faut notifier le secrétaire général des Nations Unies, lui expliquer pourquoi on en arrive là, quelles sont les modalités d'application, les mesures.
C'est ça qui doit se passer. Alors, je ne dis pas que la RDC est le seul pays à violer cette obligation, mais le fait qu'il y ait peut-être d'autres pays qui le violent, ça n'a pas fait l'objet de notre étude, mais éventuellement s'il y en a, ça ne donne pas le droit, ça ne justifie pas la violation par la RDC. Le président Tshisekedi a dit qu'il veut restaurer l'état de droit. L'état de droit, c'est respecter la règle de droit. Et dans ce cas précis, l'article 4 de ce pacte oblige la RDC à notifier. Donc c'est ça. L'état de droit, c'est se conformer à ce que le droit vous oblige de faire. Et si vous ne le faites pas, alors vous déclarez une chose, état de droit, mais vous faites son contraire.
Quelle alternative préconisez-vous en lieu et place de l'état de siège? D'aucuns pensent que depuis qu'il y a l'état de siège, il y a quand même des fruits. Il y en a qui disent qu'il y a des points positifs, mais pour vous, tout est noir.
Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous disons que nous ne voyons pas d'impact positif. Ceux qui disent qu'il y a un impact positif, je suis curieux de savoir c'est quoi cet impact positif là. Et je serais curieux également que l'on demande aux habitants de Beni, de Walikale, de Masisi, de Irumu, de Haru, de Mambasa, de Komanda et ailleurs, quel est cet impact positif? Parce que souvent, c'est trop facile de Kinshasa ou de Lubumbashi ou de je ne sais où, ou de Paris et Bruxelles, de dire « Ah oui, d'écouter tout ce qu'on raconte dans les médias. » Mais il faut aller sur le terrain et demander aux gens concernés « Est-ce que vous voyez une différence par rapport à votre sécurité ?» Mais bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, parce que votre question comportait aussi un volet pour dire « C'est quoi l'alternative ?» Il ne nous revient pas de définir l'alternative. Et c'est au gouvernement de trouver les moyens les plus appropriés. Et appropriés, ça veut dire des moyens qui vont atteindre les résultats, en l'occurrence la protection effective des civils, mais aussi des moyens qui ne vont pas causer d'autres dégâts, d'autres violations inutiles ou disproportionnées des droits humains. Donc, nous, notre plaidoyer et notre message envers les autorités, d'abord, ce n'est pas nous, nous n'inventons rien, nous rappelons juste au gouvernement ses obligations.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes, gastronomie, littérature, les us et coutumes, et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droits
et citoyenneté.
État de siège et l'observance des droits et libertés fondamentaux. Jean Maubert, chercheur à Amnesty International. Quelles sont vos principales recommandations?
Nous demandons aux autorités congolaises, notamment au président Tshisekedi et au gouvernement, révoquer le pouvoir qu'il a donné aux juridictions militaires sur les civils. Les juridictions militaires n'ont pas vocation à juger les civils, les droits internationaux ne le permettent pas et ils n'ont pas la capacité de le faire. Deuxièmement, nous lui demandons de s'assurer que lever toutes les restrictions, le droit à la liberté d'opinion, d'expression, de manifester pacifiquement, d'association, de mouvement, de lever toutes ces restrictions-là parce qu'elles ont été faites dans l'illégalité. Pour les raisons que je venais d'expliquer. Elles ont été faites sans notifier, elles ont été faites sans justifier leur nécessité, elles sont tout simplement disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi qui est l'objectif de sécurité. Nous leur demandons de libérer toutes les personnes qui sont injustement, qui sont arbitrairement détenues dans les prisons du Nord Kivu et de l'Ituri, y compris, par exemple, 12 militants de la Lucha, du mouvement citoyen Lucha, qui étaient condamnés récemment à un an de prison, tout simplement pour avoir organisé une manifestation pacifique à Beni. Les militants politiques qui sont en prison, un porte-parole de la Mouka qui est en prison, qui s'appelle Luc Malembe, à Bounia depuis plusieurs mois. 3 députés qui sont actuellement en détention, un député de Bounia et 2 députés de Goma, Didier Louko et Jean-Paul Ngangondi, qui sont injustement et arbitrairement détenus pour avoir justement critiqué l'état de siège et le manque de résultats de cet état de siège, et toutes les autres que nous ne citons pas forcément dans ce rapport. Nous demandons aussi, entre autres, de mettre en place un cadre légal approprié pour l'état de siège et l'état d'urgence. C'est la deuxième fois sous le mandat du président Tshisekedi qu'une mesure exceptionnelle de la sorte est proclamée. Pourtant, il n'existait pas une loi de mise en œuvre. La Constitution n'a pas dit que le président définit les modalités d'application. La Constitution a dit, si le président déclare l'état de siège, en cas d'état de siège, une loi doit définir les modalités de mise en œuvre. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, c'est une autorité administrative et qui ne fait pas les lois. Les ordonnances du président n'ont pas vocation à remplacer les lois. Donc, il faut que le Parlement congolais puisse adopter une loi qui définit les modalités d'application de l'état de siège ou de l'état d'urgence et donc qui permet de répondre à ce vide juridique qui a donné lieu à trop d'abus. Nous faisons également un tas d'autres recommandations que nous encourageons vos éditeurs à aller chercher sur le site internet de Amnesty International RD Congo, télécharger en français et lire tout le contenu.
À présent, nous recevons Christian Romou, chargé de campagne à Amnesty International. Nous sommes en train de parler de l'état de siège et l'observance des droits et libertés fondamentaux, la méthodologie même, pour recueillir tout ce que vous avez publié. Vous êtes parti du mois d'août 2021 au mois d'avril 2022. Vous avez procédé par des appels téléphoniques à distance. Pensez-vous que cette approche a été pour vous sincère, fiable, efficace? Oui. Pourquoi vous n'avez pas été vous-même sur le terrain?
Bon, merci beaucoup, Jeff, pour la question et merci encore de nous recevoir. Et bonjour à vous, à vos auditeurs. Comme vous l'avez bien souligné, nous avons parlé à un certain nombre de personnes, 44 personnes, pour ce rapport, notamment les victimes, les membres de la famille de certaines victimes, des journalistes sur place, les membres de la société civile, les autorités locales au niveau de province, mais aussi ici à Kinshasa, les Nations Unies également. Et donc, dans notre méthodologie, nous avons aussi consulté, comme mon collègue Jean Maubert peut-être l'a souligné tantôt, les lois nationales, mais aussi les traités et les standards régionaux et internationaux dont la RDC fait partie. Pour revenir à votre question, si cette méthodologie d'interview par téléphone est suffisante, mais bien entendu, nous aimerions être sur terrain pour faire des investigations et être en contact avec un contact physique avec les populations en souffrance et pour lesquelles nous faisons des investigations. Mais vous pouvez aussi comprendre que nous vivons dans des situations un peu particulières avec la crise sanitaire de la COVID, mais également le déplacement dans ces régions n'est pas toujours facile. Mais cela n'enlève en rien la qualité et la rigueur qu'on met dans le travail qu'on conduit pour la récolte de ces interviews et la triangulation des informations qu'on reçoit pour faire les allégations que l'on fait dans ce rapport. Donc je dirais c'est circonstanciel, le fait qu'on n'a pas été sur terrain. C'est notre nous préférerons être sur terrain, mais on n'a pas été
vous n'avez pas eu le temps matériel de vous déplacer sur le terrain. Et pourquoi vous n'avez pas pu approcher aussi ceux qui pensent le contraire, ceux qui positivent cet état de siège, balancer les deux points de vue divergents?
Le gouvernement positive déjà l'état de siège, comme mon collègue Jean-Robert l'a dit et comme je l'ai répété tantôt. Donc nous avons engagé les autorités locales au niveau des deux provinces. Et nous avions aussi écrit au gouvernement de manière officielle pour leur présenter nos conclusions et les allégations qu'on a faites dans ce rapport pour leur dire voici ce que nous avions trouvé après notre recherche. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a déjà 3 semaines qu'on l'a fait.
Ils n'ont pas réagi.
On n'a pas eu de réponse jusqu'à présent. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes à la disposition du gouvernement. Ce n'est pas que, mon collègue Jean Maubert a utilisé une phrase importante, ce n'est pas des cœurs qu'on fait ces allégations. Ce n'est pas qu'on est... oui, c'est vraiment... On veut engager un dialogue avec le gouvernement pour... partager les soucis qu'on a et les soucis que la population a pour qu'ils y remédient, parce qu'ils ont l'obligation d'y remédier.
L'état de siège ne doit pas se transformer en un régime permanent. Vous le dites dans votre rapport. On doit y mettre fin immédiatement. Il y a une table ronde qui est envisagée autour de cette problématique. Qu'est-ce que l'amnistie peut recommander à ceux qui vont participer à cette table ronde?
C'est d'avoir une discussion franche et nous l'espérons vraiment qu'ils vont avoir une discussion franche. Nous allons mettre à leur disposition ce que nous avions trouvé comme, comme souci à travers ce rapport qu'on a publié aujourd'hui. On va leur soumettre nos recommandations, et en particulier la recommandation de prendre des mesures qui ont pour l'objectif de protéger les droits humains. Donc je crois que toute mesure qui va suivre, c'est vraiment l'une des recommandations qu'on a faites pour le président, que toutes les mesures qui vont suivre à partir d'aujourd'hui, que la protection, la promotion des droits humains soit au centre de ces mesures-là. Qu'on ne retombe pas dans ce qu'on a vécu pendant une année où c'est vraiment les libertés publiques et la justice qui ont été les plus impactées par ces mesures. L'autre recommandation que nous voudrions passer pour cette table ronde, c'est l'implication, la forte implication de la société civile dans les deux provinces. Je crois qu'il serait une opportunité ratée si cette table ronde ne tienne pas en considération les forces vives dans les deux provinces qui aussi avec les députés de ces deux provinces représentent des aspirations de ces peuples meurtris dans les deux provinces.
Christian Romo, vous êtes chargé de campagne à Amnesty International. Pour que ce rapport ne soit pas une lettre morte, on lit et puis on garde dans le tiroir. Que projetez-vous comme action concrète dans le futur? Quelles sont les grandes étapes qui vont suivre après cette publication?
Alors, Amnesty International, c'est une organisation de campagne. Nous faisons des campagnes pour nous assurer que les rapports que nous faisons ne soient pas, comme vous le dites, lettre morte. Et donc, à partir de maintenant, nous allons partager ce rapport au public en général, mais aussi nous avons toute une liste de cibles avec qui nous allons engager les discussions directement, notamment les membres du gouvernement au niveau national, mais aussi nous aimerions bien engager les autorités au niveau local aussi. Et en plus de cela, la RDC fait partie de cette communauté des nations, et donc nous allons engager les différents pays au niveau régional, mais aussi au niveau international, les partenaires de la RDC, pour assurer que ces messages de la centralité de la protection des droits humains dans toutes les réponses sur les soucis de sécurité à l'Est et dans les deux provinces en particulier, que cette centralité de la protection des droits humains soit vraiment prise en considération. Comme Amnesty International est aussi un mouvement des membres, on est environ 10 millions à travers le monde, c'est de mobiliser notre base pour, par exemple, les 12 personnes qui sont en prison à Beni puissent être libérées, parce que c'est inconcevable que les jeunes gens, qui peuvent être mes petits frères, vos petits frères, vos enfants, soient mis en prison pour la simple raison qu'ils ont manifester pour appeler ou contre l'état de siège. Donc nous allons mobiliser notre base, notre mouvement, pour qu'ils puissent faire la pression auprès des autorités congolaises que ces jeunes gens soient libérés. Donc voilà un peu. Il y a tant d'autres actions qu'on va, mener, notamment à travers la mobilisation, à travers les réseaux sociaux, pour donner un peu une pression publique et en ligne pour certaines des recommandations qu'on a soumises dans le rapport.
Voilà, nous parlions de l'état de siège et l'observance des droits et libertés fondamentaux dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous recevions Jean-Maubert Senga, chercheur à Amnesty International, et Christian Romo, chargé de campagne. Droit et citoyenneté est à présent terminé. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.